RFI, grand reportage, Marie Casadebé.
Nous vous proposons aujourd'hui la rediffusion d'un grand reportage dans une région oubliée où la guerre fait pourtant rage, entre le Soudan et le Soudan du Sud. En 2005, après 20 ans de guerre civile, le Soudan est scindé en deux. Le Soudan du Sud devient ainsi le plus jeune état du monde. Mais deux régions ont été oubliées des accords de paix, le Nil Bleu et le Kordofan du Sud dans le sud du Soudan. Leurs populations se sont battues pour l'indépendance du Soudan du Sud. Depuis 2011, les rebelles ont repris les armes et combattent l'armée soudanaise. En représailles, Khartoum bombarde civils et combattants sans faire de distinction. Notre envoyé spécial Anthony Fouchard a pu se rendre dans cette zone extrêmement difficile d'accès, les monts Nouba dans la vallée des bombes. Voici son grand reportage.
Les monts Nouba, ce sont une succession de collines et de montagnes de granit. Près de 50 000 km² entre le Soudan et le Soudan du Sud. Les montagnes les plus hautes culminent à 1400 mètres au-dessus des immenses plaines du Kordofan du Sud. La population a construit de petites maisons sur les flancs pour se protéger des bombardements aériens, car cette zone est contrôlée par des rebelles qui réclament non pas l'indépendance, mais l'autonomisation. Et depuis 2011, les affrontements entre ces rebelles du mouvement de libération des peuples du Soudan Nord, le SPLNORS, et l'armée soudanaise font rage. Dans les monts Nouba, la guerre est saisonnière. Quand la pluie s'arrête, ce sont les bombes qui recommencent à tomber.
On s'est installé ici car les montagnes nous protègent des avions. C'est plus difficile pour eux de viser. Quand ils viennent, on se cache dans les rochers. Il y a eu des bombardements depuis la fin des pluies, mais pas encore dans ce secteur. Mais les avions sont déjà là. Cet après-midi, les enfants ont été renvoyés de l'école parce qu'un bombardier Antonov était dans le ciel. On ne peut rien faire face à ça.
Ici, tout le monde sait quoi faire quand un bombardier Antonov est dans le ciel. Les enfants sautent dans les terriers creusés un peu partout dans les vallées ou se réfugient dans les montagnes. C'est devenu presque un jeu qui est même répété dans les écoles.
Quand les avions viennent, on se cache là, très longtemps. Ils repassent souvent plusieurs fois.
Vous connaissez le son d'un Antonov ?
Oui, ils font ce bruit-là.
À chaque saison des pluies, les routes deviennent impraticables et la progression de l'infanterie soudanaise impossible, même avec l'appui de l'aviation. Dans les monts Nouba, les quelques mois des pluies riment donc avec cesser le feu. Les habitants peuvent sortir, cultiver les champs, sortir des montagnes aussi, où ils ont trouvé refuge. Mais pas tous. Maha Hamda, 34 ans, son nouveau-né sous le bras, ne veut plus quitter sa caverne.
Voilà mon bébé. Il y a 9 mois, j'ai dû accoucher sous les bombes dans cette caverne. Avant, pendant la saison des pluies, on dormait sous la hutte, là-bas dehors. Et pendant la saison sèche, on retournait dans la montagne. Mais maintenant, j'ai beaucoup trop peur. Avec les enfants, on dort ici, peu importe la saison.
Les Nouba, un si petit mot pour décrire une si grande diversité. Ce terme est employé pour désigner les populations qui vivent dans ces montagnes, mais les peuples Nouba, ce sont plus d'une dizaine d'ethnies, une cinquantaine de langues, une culture marginalisée, brutalisée depuis des décennies par le gouvernement central. Dans les années 80, par exemple, de nombreux paysans Nouba sont dépossédés de leurs terres, données à des investisseurs venus du nord, venus du Soudan. Les Nouba sont noirs, à la frontière entre deux civilisations aux confins du Darfour, le monde arabe et le monde africain. Si le gouvernement soudanais s'acharne autant sur cette région, ce n'est pas que pour une question de couleur, ou plutôt si, celle de l'or, noir. En 2011, avec l'indépendance du Soudan du Sud, Khartoum a perdu énormément de ressources. Et le Kordofan du Sud, là où se trouvent les monts Nouba, est le principal pourvoyeur de pétrole du Soudan. Pas question donc de l'abandonner aux rebelles, quitte à bombarder les populations civiles. Souleymane Diabona est le gouverneur par intérim de la région.
L'offensive du gouvernement soudanais vient chaque saison. Il vise notre peuple, les villages, les zones agricoles, dans le but de disperser la population et de nous affamer. Les gens sont ensuite très vulnérables sur le plan de la sécurité alimentaire, car ils sont obligés de fuir et de s'installer ailleurs.
Quelle est la stratégie de Khartoum pour vous ?
Leur stratégie, c'est de viser les fermes, les zones agricoles, dans le but de faire fuir les gens. Ils veulent que les gens d'ici partent avec eux, quittent les monts Nouba.
Mais de toute façon, vous ne partirez pas des monts Nouba.
Vivre ici, c'est une sorte de survie. On se défend, nous et notre peuple, notre culture. Les Noubas, ce sont nos origines. Nous ne pouvons pas quitter cette zone. Que l'on soit en guerre ou en paix, nous resterons ici.
Ces bombardements répétés de l'aviation soudanaise, Hassan Saïd Koumi les recense méthodiquement. Il est devenu observateur des droits de l'homme il y a quelques années. Dans son grand cahier bleu, il a noté toutes les destructions, toutes les victimes depuis 2011, comme cette clinique détruite dans la ville d'Eban, 50 000 habitants.
Là vous voyez le trou, là c'est une bombe. L'autre est dans l'enceinte, dans la mosquée. Là-bas vous voyez aussi les impacts lors de l'explosion. Les portes sont cassées.
Juste à côté d'Eban, l'aviation soudanaise a frappé quelques jours seulement avant notre passage. Hassan nous emmène sur les lieux de l'explosion. Les restes d'une bombe à sous-munitions sont encore là. Depuis le début du conflit, plusieurs centaines de personnes sont mortes sous les bombardements. Plusieurs milliers d'autres ont été blessés.
L'aviation soudanaise vise les églises, mais aussi beaucoup de mosquées ou d'écoles. Ils détruisent aussi des cliniques et les marchés locaux également. Avec tous ces rapports, on peut dire qu'ils visent spécifiquement ces lieux-là, de manière volontaire, pour anéantir les civils et les endroits où les gens se rassemblent.
Le métier de ces observateurs n'est pas sans risque. Ils sont une dizaine dans les monts Nouba. À chaque bombardement, Hassan prend sa moto et roule en direction de l'impact, au risque d'être touché lui aussi.
Ce jour-là, on était sur la route et on a remarqué trop tard le bombardier Antonov au-dessus de nous. Il a visé la route ou notre moto. Immédiatement, on a vu la bombe au-dessus de nous. Quand je me suis arrêté, il y en avait une autre derrière moi qui tombait. On s'est jeté au sol, on était proche des montagnes. Quand on s'est relevé, tout était détruit. Deux personnes étaient gravement blessées.
Alors, face à l'horreur, Hassan photographie inlassablement les cratères creusés par les centaines de kilos d'explosifs, les corps des victimes, les blessés aussi.
Why do you take pictures of that bomb?
Je prends des photos pour montrer ce qui se passe ici, parce que quand tu parles, les gens ne te croient pas. Avec les photos, cela devient réel. Souvent, le gouvernement nie ces bombardements, mais avec les photos, il ne peut pas nier. Oui, une preuve, pour montrer exactement ce qui se passe ici dans les monts Nouba.
Se soigner dans les monts Nouba, c'est aussi un parcours du combattant. Il faut des heures de voiture, voire des jours entiers de marche pour arriver à l'hôpital Mother of Mercy, la structure la mieux équipée de la région. Le docteur Tom Katena, petite lunette ronde, visage émacié, est l'un des seuls chirurgiens dans ces montagnes. À 57 ans, la vie de plus d'un demi-million de personnes dépend de lui. Aujourd'hui, il se prépare pour une opération en urgence, une césarienne sur cette femme qui a perdu beaucoup de sang. Il faut sortir le bébé, mais après un premier cri, le prématuré ne respire plus. Une sage-femme lui insuffle alors de l'air.
Il respire seul.
Cette patiente a dû marcher plus de 2 heures pour arriver jusqu'à l'hôpital.
Il n'y a pas de réseau de transport public, pas de bus, pas beaucoup de véhicules qui peuvent conduire les patients. Presque tout le monde doit venir à pied. Cette patiente a marché 2 heures pour arriver ici. C'est relativement court dans la région, mais quand même, elle a dû marcher 2 heures. Et du coup, elle a commencé à faire une hémorragie. On a dû l'opérer. Bon, pour l'instant, la maman et le bébé vont bien.
Le docteur Tom, comme on l'appelle affectueusement ici, est arrivé en 2008. Depuis quelques années, c'est la chirurgie de guerre qu'il pratique quasiment au quotidien dans ces montagnes.
Presque toutes les urgences médicales arrivent ici. C'est un problème commun aux zones de guerre. Nous avons beaucoup de civils blessés par les bombardements aériens et on doit gérer tout le panel des blessures traumatiques, des plaies par balles, des blessures liées aux éclats d'obus, etc.
Car le Soudan continue d'interdire tout accès humanitaire par sa frontière. Concrètement, il est impossible pour les ONG d'intervenir dans la zone, sauf en y pénétrant de manière illégale, notamment via le Soudan du Sud. Alors en 2011, quand la guerre a éclaté, la plupart des organisations internationales ont déserté. Quelques-unes sont restées comme Médecins sans frontières, mais un de leurs hôpitaux a été bombardé à deux reprises en 2014 et 2015, les obligeant à suspendre leurs activités. Le docteur Tom Catena est prudent quand il s'agit de s'exprimer sur les difficultés liées à son activité.
Notre principal problème, c'est la logistique. On doit tout acheter au Kenya et en Ouganda, puis tout rapatrier par avion jusqu'ici dans les monts Nuba. C'est extrêmement long et coûteux. C'est difficile à assumer. Il n'y a pas d'autre solution, car aucune autre organisation ne nous vient en aide ici.
C'est le diocèse d'Obed, situé au Soudan, qui prend en charge les coûts de l'hôpital Mother of Mercy. L'hôpital où travaille le docteur Tom a aussi été bombardé en 2014. Dans tous les monts Nuba, le gouverneur par intérim, Souleymane Diabona, affirme qu'il y a plus de 150 centres de santé, mais qui sont alimentés en médicaments et en matériel environ une fois tous les 6 mois. Alors à côté de ça, certaines ONG prennent le risque de braver l'interdiction du gouvernement soudanais. Souleymane Diabona.
Khartoum refuse tout accès humanitaire, c'est vrai. Mais il y a des ONG qui traversent la frontière quand même pour amener les médicaments et soigner les gens. Mais ce n'est pas suffisant.
Personne ne se risque évidemment à citer le nom d'une organisation qui franchit donc illégalement les frontières pour venir en aide aux populations. Le bombardement de l'hôpital de Médecins sans frontières a refroidi plus d'une structure internationale. Beaucoup ne veulent pas non plus mettre à mal leur programme au Soudan et viennent donc en aide de manière détournée en faisant des dons au diocèse qui redistribue ensuite aux populations. La question de l'aide humanitaire est une priorité pour les rebelles du SPLN-North. Cet été, ils ont même entamé des pourparlers avec Khartoum en proposant l'ouverture d'un couloir humanitaire. 80% de l'aide serait venue du côté soudanais, 20% du côté des rebelles. Le Soudan a refusé.
Pourquoi Khartoum a peur que 20% de l'aide humanitaire vienne de notre côté? S'ils ne nous font pas confiance, on ne leur fait pas confiance non plus. Le cessez-le-feu vient après un accord politique. Khartoum parle de cessez-le-feu tous les ans, alors qu'ils continuent de bombarder. Ils essaient simplement de tromper la communauté internationale.
Devant une petite église, des centaines de personnes font la queue pour récupérer quelques sacs de sorgho ou de mil distribués par une organisation catholique. Les autres devront marcher jusqu'à El Hadra, le village des contrebandiers, à quelques kilomètres seulement de la ligne de front. Ici, des hommes et des femmes traversent les lignes ennemies pour approvisionner les étalages. C'est le marché le plus fourni de tous les monts Nuba. Khartoum le sait et pourchasse les contrebandiers, explique un homme qui veut rester anonyme.
Les soldats soudanais chassent les contrebandiers. Ils coupent les routes et tuent ceux qui essaient de passer. Ils veulent nous étouffer ici, nous laisser sans rien pour que nous n'ayons plus d'autre choix que de partir. Moi, c'est malheureusement ce que j'essaye de faire avec ma famille.
Car ce marché n'est pas fréquenté que par des civils. De nombreux combattants du SPLN-North de retour du front viennent aussi à El Hadra pour se reposer et acheter quelques bricoles. C'est du moins ce qu'explique Aboubakar Anikou, un vendeur sur le marché.
Ce savon-là, je le vends 15 pounds soudanais. C'est 3 fois plus qu'avant. Le prix du bidon d'essence a doublé. Même moi, j'ai du mal à m'en sortir, car les contrebandiers augmentent leur prix à cause des risques et ma marge de bénéfice diminue.
À côté d'Aboubakar, Saïma attend, drapée dans un élégant voile rose. Elle vient d'arriver à El Hadra.
J'ai marché 4 jours pour venir ici. Il n'y a plus rien là d'où je viens, plus rien sur la route. Je n'ai pas d'autre choix. D'habitude, j'amène des choses à vendre de mon village et je repars avec d'autres choses. Là, je n'ai rien à vendre.
Dans les monts Nouba, il y a ceux qui veulent partir et ceux qui resteront coûte que coûte. Le docteur Tom Katena, par exemple, est l'un d'eux. Il vient d'achever la construction de sa petite maison à quelques pas de l'hôpital avec sa femme qu'il a rencontrée ici, dans les montagnes.
L'année 2017, elle ne sera pas différente des 8 dernières années. Les combats vont reprendre. On s'attend tous plus ou moins à ça.
Mais vous, vous restez, quoi qu'il arrive.
Évidemment, avec les sœurs et les prêtres, on est habitué à ça. On reste, on aide la population et on verra ce qui se passera.
Hassan Saïd Koumi, lui aussi, reste accroché à son cahier et à son téléphone à chaque bombardement, avec à chaque fois un peu plus d'amertume.
C'est vraiment un sentiment désagréable quand vous voyez les gens souffrir devant vous, être blessés devant vous, courir comme des chiens, comme des animaux, ça fait mal. Mais on n'a aucun pouvoir. On rapporte, on photographie, peu importe qui écoutera nos cris, nos pleurs, on espère juste que quelqu'un écoute. On espère que la communauté internationale sera alertée par nos rapports. Si rien ne se passe, on va simplement mourir ici.
Dans les monts Nouba, les couchers de soleil ne ressemblent à aucun autre. Les montagnes de granit baignent dans un étrange halo orangé qui tire vers le rose lorsque l'astre disparaît derrière les crêtes. Un peu de répit pour les habitants. La nuit, les avions ne bombardent pas. Les monts Nouba, dans la vallée des bombes, réalisé par Ludivine Amado, un grand reportage d'Anthony Fouchard.